Écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 10 mars 2012, nos programmes pour cet après-midi. À 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jano Dead. Et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le débat polémique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Pas le gars qui est capable de transformer une boîte de conserve en bombe intelligente en guise de film d'étudiant.
Oui, si, si, c'est lui aussi. Eh ben, tu vois, c'est Big John. C'est John Carpenter. Voilà.
Fallait pas, Thomas.
Mais pourquoi? Perqué.
Voilà, donc John Carpenter, c'est lui qui est derrière ce truc.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, bonjour, merci d'être à notre écoute. Désolé de ne pas avoir été là samedi dernier, on avait un petit peu d'autres choses à faire. C'est vrai qu'on aurait dû l'annoncer quand même dès l'émission qu'on ne pourrait assurer. Ouais, ça arrive, hein, des fois on est en bénévole, donc des fois c'est un petit peu dur. Surtout quand on a galopé après une mineure fugueuse à 2h du matin, tout ça c'est un peu chaud là.
Désolé, on a bien le droit de se reposer aussi. Hein. On n'a pas à être désolé. On revient de toute façon encore plus en forme que jamais et ça c'est très bien pour nos auditeurs.
Ouais, même du café grillé dans la.
Ah mais c'est vrai, j'ai oublié le café. Ah, je vais chercher le café.
Bonjour du sport.
Bonjour du sport. Nous sommes le 10 mars 2012. Juste une chose, ça fait exactement un an qu'il y a eu lieu le fameux tremblement de terre magnitude 9 au Japon. C'est demain en tout cas. Toutes nos pensées vont une fois de plus à tous nos contacts que nous avons au Japon, soit professionnels, soit amicales, soit par le biais de notre émission. Nous avons des amis qui sont là-bas, des amis, soit des Français qui y vivent, soit tout simplement des Japonais tout simplement qui vivent sur place. Alors bien évidemment, on ne va pas revenir sur les larmoyants ou quoi que ce soit, on tenait tout simplement à le marquer indirectement par cette petite phrase. On fera un bouquin tout à l'heure, j'ai essayé de tourner un petit peu cette chronique un petit peu en clin d'œil pour ce pays et j'ai oublié, voilà, c'est parce que je suis sûr, je voulais mettre le fameux sonore qu'on a enregistré, Gambare Japan, lors du TGS Wanami l'an dernier, où tout le monde, tous ceux qui étaient présents, tout le public qui était présent au TGS Wanami leur a dit, tenez bon, et c'était un grand moment d'émotion.
Donc il y a El Gringo qui revient.
Donc voilà. El Gringo est revenu. pendant ce temps-là, on a un agenda qui est plutôt costaud hein, quand même ce week-end. Puisque en dédicace.
Oula, je viens de découvrir le programme en direct là.
Voilà. Il y a H Tonton qui fait une bande dessinée qui est en dédicace à la librairie Album, c'est tout à l'heure à 15h. Pour Petit Bonheur, dont le deuxième tome vient de sortir. Petit Bonheur, c'était une histoire assez touchante, assez émouvante. D'enfants qui font leurs petits jeux dans la campagne, etc. Sauf qu'on est pendant l'occupation et ils vont tomber sur une cache de résistants. Donc, il y a l'innocence, il y a un peu la perte d'innocence et tout le reste, et les jeux d'enfants. C'est très beau, c'est vraiment magnifique. C'était vraiment un gros coup de cœur de l'émission pour le premier tome. Ah, hein, Thomas, tu l'avais lu, petit bonheur, chez Vent d'Ouest. Hein.
Non.
En format.
Grand format, petit bonheur.
Il me semble. Bon, alors, pardon, ok.
T'as une image là?
Voilà, il n'y a pas que moi, hein, loin de là. Faut dire aussi que je l'avais préparé. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en dédicace? Christophe Maury, mais ça c'est de la littérature jeunesse, c'est à la librairie Gilbert Joseph. C'est donc tout à l'heure à partir de 15h pour Mathieu Idaf, 2 tomes. Demain, à Salle des Fêtes de Ramonville, eh ben, il y a la bourse de la bande dessinée qui est renommée Ramon Bulle. Accès libre et gratuit, mais après les bouquins, eh ben, voilà, si vous voulez en vendre ou en acheter en occasion, c'est l'occasion. Ouais, peut-être que je vide un petit peu chez moi.
Ben ouais, alors Ramonville, c'est quoi? C'est des dédicaces aussi? Il y a des auteurs?
Non, il n'y a que des libraires d'occasion et des chineurs et des brocanteurs. Enfin, des brocanteurs spécialisés BD, hein, je tiens à préciser. Mardi 13 à la Dynamo, c'est 6 rue d'Amélie. C'est rue d'Amélie, en fait, c'est un quartier Jean Jaurès, hein, c'est dans cette ligne de métro. À partir de 20h30, enfin ça commence à 19h, mais à 20h30 c'est le lancement direct, il y a un loto culturel. On peut gagner des CD, des DVD, des instruments de musique, on peut gagner des stages à des spas, des formations, il y a un peu de tout. C'est la deuxième édition et je crois savoir que notre ami Eugène du Data Alone Project, qui fait la matinale tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 9h sur Radio FMR, s'était mis en lot. Puisque un des lots à gagner, c'est que Eugène s'invite chez vous pour faire son émission le matin. Ça peut être amusant. J'en connais une qui dit « Ouais, je veux Eugène !» Ça va, t'as déjà squatté 2 fois son émission, tu veux dire que tu veux en plus qu'on nous le ramène?
Moi je dis, une femme qui veut un autre homme à la maison, c'est suspect, mais bon, tu fais ce que tu veux.
Enflammé, si tu nous écoutes, tu sais ce qui t'attend. Elle était censée être là d'ailleurs pour faire la blague. Samedi 17, à la librairie Les Petits Ruisseaux, qui est dans le quartier République.
Saint-Cyprien, oui.
Saint-Cyprien, République. Frédéric Bézian, pour aller-retour chez Delcourt.
Frédéric Bézian, qui, comme vous le savez, a fait donc dans ce livre qui se passe dans son village natal, un hommage au livre. Non, au film, Xavier. Au film, tu t'es trompé pendant ta chronique. Il l'a dit, Angoulême. Ça fait plaisir. Bon, enfin, qu'il a apprécié ma chronique. Ok, mais qu'il a noté cette erreur-là, c'est impardonnable de ma part. Voilà. À la librairie Gilbert Joseph aura lieu une autre séance de dédicace à partir de 15h. C'est pour une série qui sort chez Dupuis, qui s'appelle Sale Bête, scénarisée par Maya Mazorette et dessinée par Jean-Paul Krasinski. Ça s'appelle Sale Bête. C'est le premier tome. Ça s'appelle Amsterdam. Donc c'est de l'humour sur les animaux de compagnie et tout le reste, bien sûr. Et après, rapidement, enfin c'est surtout parce que la bande son se termine là. Je saute hop à la ligne 12. Coyote qui sera à la librairie Terre de Légende pour ses 20 ans.
Est-ce qu'il sera seul ou accompagné?
Il sera accompagné de Simon Léturgie et d'autres dessinateurs. Plus exactement, ce sont des dessinateurs qui font partie d'un studio qui est à Toulouse. Et donc, peut-être qu'on aura un beau panel de dessinateurs. Ce ne sera pas que le samedi 31 mars, ce sera aussi le dimanche 1er avril à Librairie Terre de Légende. Et la bonne blague, c'est que je n'ai que Simon Léturgie qui est confirmé. Le reste, on ne sait pas. Alors, je ne sais pas, j'ai bien envie de leur faire une blague. De débarquer avec tout le matos, sans rien dire à Jean-Pascal, au libraire, etc. On fait l'émission à midi en direct chez vous. Xavier, t'es gentil.
Oui, sauf que là, s'il nous écoute, c'est vanté, quoi.
Non, mais il a autre chose à faire. Et puis, il n'écoute pas nos podcasts. Salut Jean-Pascal. Si, il les écoute, lui aussi. Voilà. Et le 28 et 29 avril.
Oui, parce que j'attendais avec impatience, puisque sur ton conducteur, tu as marqué les 29 avril, et j'attendais que tu fasses la bourde. Mais non, tu t'es corrigé à temps, c'est bien.
J'ai l'habitude, à force, je corrige mes textes en live. Tout le monde sait ça. Bref, le Toulouse Game Show édition Oanami qui a encore lieu pour l'instant à la Belge, à l'espace Diagora. Puisque pour la grande édition, pour le Grand TGS, je crains bien que ça ne soit plus possible.
Oui, ce sera au Palais des Expos. Alors là, pour cette édition, Oanami, il y a Clive Simon, qui est l'acteur qui joue Bal dans Stargate SG1. Il y a Marcus, le joueur du grenier. Les noobs seront là. Davy Mourier, Brigitte Lecordier, qui est doubleuse, notamment qui a fait la voix de Sangoku pour DBZ.
Ah, tu vas être content. Tu vas y aller avec le micro. Tu peux me faire
ouais. Et également, il y a le groupe de Visual Kei qui s'appelle Dee, qui sera là pour un concert. Voilà. Et d'autres invités qui seront annoncés dans le courant de la semaine prochaine.
Je crois savoir qu'il y a un gros truc.
Voilà, un gros invité manga. Voilà. Mais,
ça risque d'être même ce week-end, mais j'ai pas réussi à soudoyer ni Raph ni Sébastien.
Ah, Raphi m'a dit qu'il était pas au courant. Alors,
Tu parles. En tout cas, j'aurais essayé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer ? Ben, il y a toujours le site suppléantweekend.fr d'ailleurs qui
existe toujours.
Il existe toujours ce truc. Et dans les chroniques qui ont été récemment mises en ligne.
Il n'y a pas eu beaucoup. Hein.
Laisse-moi le temps de faire charger la page.
Il y a eu Missy Dominici.
Missy Dominici, oui, exact. Il y a eu Very Bad Trip 2. Non, ça c'était déjà. Si, Very Bright Trip 2 et The Ward, donc voilà, donc il y a trois chroniques. N'hésitez pas à nous écrire pour laisser vos commentaires, dire ce que vous en pensez et tout le reste. Ça nous ferait extrêmement plaisir. On fait notre émission depuis cette saison, hein. C'est la 7ème.
6ème ou 7ème, je crois. On entame la 8ème. Hein,
Et on est très loin d'être parfait techniquement ou même à l'animation, donc n'hésitez pas à nous dire qu'on est des gros nuls. Voilà.
Mais oui, allez-y.
Vas-y, gros.
Si vous en avez dans le pantalon, dites-nous ça, oui.
Voilà. Et puis on a mis aussi un peu ce qu'il y a autour, notamment la programmation musicale de Du Sport qui fait entre 14 et 15, bien sûr, mais aussi le petit déjeuner clandestin qui est donc l'émission où Eugène se fait squatter par une fille pour faire la cuisine dans ce studio. Et je peux vous dire que ça sentait les haricots en bas et la saucisse poivrée en haut.
Pas de Black Salas, merci.
Ah non, loin de là. Et c'était très bon, ceci dit, mais au petit-déj, quand même, un petit-déj salé comme ça, aussi costaud, à midi, t'as plus faim.
Bah non, c'était salé sucré.
Oui, c'est vrai que les haricots avaient
Voilà.
Ah, mais tu l'as écouté ?
Bah alors.
Oh !
Tu pourras dire plus un, hein, enflammé.
Plus un. Non, mais elle se rend compte que le matin, c'est très très écouté à la radio. Hein. Bah, très bien écouté, sûr. Bien sûr. 45, d'ailleurs, je crois qu'il y a le salon des loisirs culinaires qui a lieu à Toulouse en ce moment, au parc des expositions.
C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Hein.
Eh oui, eh ben, elle y est allée et elle m'a dit « Je n'en parlerai pas ».
Moi, je mets juste les pieds sous la table, c'est tout, hein, à la maison.
Ouais, ouais. Il y a également le salon du chocolat solidaire ce week-end.
Ah. Oh, où ça ?
Ah, je sais pas, j'ai pas noté.
Ça, c'est un peu bête.
Tu nous mets l'eau à la
bouche mission et notre mission d'information tombe complètement à l'eau, pour le coup. C'est dommage. Vous écoutez Radio Éphémère, 12h13, 25 secondes et 976 millièmes sur l'horloge atomique de la station. Et on va entamer les sorties bande dessinée avec un manga de Shizuka Nakano qui s'appelle Le Semeur d'étoiles, qui est sorti chez EMI Show Edition avec, excuse-moi, pardon.
Je disais ça brille.
Ça brille avec une très belle couverture. EMI Show, c'est une maison d'édition qui sort des sentiers battus de la manga, si je puis dire, puisque c'est pas franchement du mainstream. Quoi qu'on a eu deux sacrées surprises, Atsushi Kaneko, quand même, c'est ceux qui l'ont fait découvrir. Il y a eu aussi, j'ai oublié le nom de cette dessinatrice qui prenait des contes et qui en faisait un art gothique complètement délirant, qui avait fait Cinderella.
Junko Mizuno.
Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment des défricheurs de talent qui, après, ben voilà, hein, on a vu Atsushi Kaneko et maintenant aussi édité chez Ankama. Et Mizuno a été aussi édité par Kana. Donc, c'est la preuve que, quand même, ils ont vraiment un rôle de défricheur qui est extrêmement intéressant de ce côté-là. Shizuka Nakano. Une fois de plus, moi je suis tombé vraiment sous le charme de son Semeur d'étoiles. Le Semeur d'étoiles, donc, qui est une collection d'histoires courtes. Alors, pour peut-être un petit peu expliquer que le Japon, c'est un pays où les religions animistes, c'est-à-dire qu'on est. C'est pas du polythéisme, hein, c'est des petits esprits, voilà. C'est un pays où donc ces croyances-là sont assez présentes, à côté du bouddhisme. Croire aux esprits, c'est une composante importante de leur culture. Il n'est donc pas rare dans ce pays qui mélange intimement ultramodernité et tradition ancestrale. Ben, quand on sort le soir dans les villes, ben, de ressentir dans le coin de l'œil quelque part passer ces esprits le soir dans les rues. Oui, car si le Japon est un pays ultra-urbanisé où la population vit en très grande majorité dans des mégapoles extrêmement denses, et ben, ces croyances y sont encore très fortes. Leur adaptation à la ville en donne une modernité étonnante. Néanmoins, dans les histoires courtes de Shizuka Nakano, on est plus dans les petites villes, les villages, voire les montagnes. Dans la vie quotidienne des gens, des petits événements comme le déménagement dans une maison ancienne, la cuisine de confiserie, voire une simple averse. Et ben, c'est l'occasion de tourner vers des histoires ordinaires, mais un petit esprit fait qu'elles vont basculer. Dans le bizarre, l'étrange, l'incongru. Un petit esprit sorti d'un autre âge, de croyances ancestrales, de légendes qu'on raconte aux enfants pour qu'ils ne tardent pas trop sur le chemin de l'école ou qu'ils aillent pas en soirée en club à 1h du matin. Car oui, ces bestioles qui viennent hanter le monde des humains ne sont pas forcément toutes bienveillantes. Certaines sont un peu farceuses, d'autres malicieuses et d'autres carrément hostiles. Le dessin des personnages est simple, esquissé, mais le travail des trames est extraordinaire et donne une étonnante impression d'aquarelle imprimée. Ces histoires n'ont pas vraiment beaucoup d'action, il y a un certain dynamisme pop dans la mise en scène des mouvements. Et bien sûr, on note de subtiles références aux illustrations des esprits dans les estampes. Graphiquement, c'est beau. Le travail d'adaptation du Yamcha est à noter. Car il fait attention de ne pas laisser d'onomatopées inutiles. Indirectement, c'est une suite au Piqueur d'étoiles de la même dessinatrice, traduit là aussi chez le même éditeur. Et finalement, on se rend compte qu'on se sent incroyablement proche des protagonistes de ces histoires courtes quand on part en week-end à la campagne, qu'on se plaît à se balader dans une forêt la nuit tombée ou qu'on écoute les grincements d'une vieille maison. Le Japon est le pays où les esprits entrent dans notre monde moderne et s'y propage aussi par les mangas. Le Semeur d'étoiles de Shizuka Nakano, c'est chez Iemeisho. Thomas, tu veux jeter un petit coup d'œil rapido graphiquement c'est...
Oui, alors je trouve que c'est super bien d'avoir ça dans les mains parce que ça nous rappelle quel est notre but premier dans cette émission, c'est de faire avant tout aussi une émission de découverte. Et je te cache pas que moi je serais passé devant ça dans une librairie, je ne l'aurais pas pris. Mais je suis très très content que tu le chroniques ici parce que ça va me donner l'occasion de découvrir cet auteur et cette bande dessinée.
En Après, tout cas, c'est vrai que c'est surprenant quand même l'usage des trames et tout ça. Comme je l'ai dit, on a une impression d'aquarelle. Enfin, je ne sais pas quelle est sa technique. J'ai l'impression qu'elle travaille d'abord en couleur et ensuite elle applique les trames.
Oui, on dirait qu'il y a un effet presque 3D avec des lunettes rouges et bleues, tu sais, avec un peu décalées comme ça. Et puis, mais c'est vrai qu'en plus, ce n'est pas une BD en noir et blanc, mais une en bleu et blanc. Puisque c'est du noir qui est légèrement bleuté aussi, donc ça renforce un peu le côté un peu underground.
Les premières pages ont une couleur supplémentaire, donc...
Ah oui, d'accord, ok.
Donc ça aide un petit peu, mais...
C'est très singulier, en tout cas. C'est pas du tout mainstream, donc c'est pour ceux qui aiment bien les BD qui sortent des sentiers battus et qui sont pas du tout dans les séries à rallonge avec les gros potentiels commerciaux.
Voilà, sachant que les personnages en fait du pêcheur d'étoiles, du piqueur d'étoiles, excusez-moi, sont repris dans le Summer.
Ah oui, pardon.
Ouais. Merci de ne pas avoir suivi ma chronique.
Désolé.
T'as intérêt à être bon sur celle-là. Parce qu'il y a des actionnaires derrière.
Ouais, putain, ils sont nombreux. Hein.
Et on en a parlé, c'est l'histoire d'un éditeur qui travaillait chez Dupuis et qui décide de lancer sa maison d'édition en se disant ben, on va donner l'opportunité au public d'investir dans les projets. C'est-à-dire on va montrer comment des dessinateurs et des scénaristes montrent les projets, en fait, pitchent leur bande dessinée aux éditeurs. Et on va faire ce qu'on appelle du crowdfunding. on connaît très bien ça avec My Major Company. Il y a, il y a un site qui cartonne monstrueusement en ce moment, qui s'appelle Kickstarter, aux États-Unis, pour du financement de films, de jeux vidéo, d'albums, qui aussi fait ça. Et Sandaway, donc, est une maison d'édition qui s'est lancée là-dedans. Et le chevalier, à côté de Maître Korbak et tout ça, et ben donc on a le chevalier mécanique.
Voilà, donc c'est comme tu l'as dit, ce sont les édinotes, comme on dit, qui financent les bandes dessinées. Et donc les auteurs présentent des projets de BD et dès qu'ils ont 100% du financement, ils sont édités. Et pour ce faire, les auteurs...
Ils entrent en production et édités, hein. Certains ne sont pas encore dessinés.
Oui, voilà, il y a un kit en fait qui est proposé aux édinotes et ensuite il entre en production. Et donc... Voilà, excusez-moi. Donc là, c'est un album qui s'appelle Chevalier Mécanique. Le tome 1 s'appelle La Table d'Émeraude. C'est dessiné par Mort et scénarisé, je vais retrouver le prénom, par Cédric Ménil. Et donc là, pour une fois, le résumé n'est pas écrit par moi. Je vais vous le prêter, voilà. Le résumé n'est pas écrit par moi. J'ai fait un copier-coller d'un article paru chez nos confrères d'ActuaBD qui a été écrit par notre rédacteur en chef bien-aimé qui est Charles-Louis Détourné. Voilà. Donc, en 1661, un petit peu de flemme aujourd'hui. Lorsque le jeune Louis XIV accède enfin au trône de France, il est loin de se douter que dans l'ombre, une sanglante conspiration menace déjà son pouvoir. Ni que son salut viendra peut-être d'un mystérieux chevalier mécanique, inconnu jusqu'alors. Mi-homme, mi-automate, il a appris à bouffer des choses qui feraient vomir en boucle, donc ça c'est moi. Le chevalier Ulysse d'Astarac est en effet le premier homme mécanique de l'histoire de l'humanité. Ce super-héros, avant l'heure, deviendra le bras armé de Louis XIV et tentera de sauver son trône des attentats, des meurtres, des empoisonnements, des messes noires, des enlèvements que la confrérie intégriste du Saint-Sacrement projette à son encontre. Mais dans sa force réside aussi sa faiblesse, car il pourrait succomber à ses propres démons intérieurs. Alors, tu lis la BD, Le Chevalier Mécanique, tu dis, bon voilà, c'est un super-héros au service de Louis XIV, bon, super pitch et tout, ça fait un peu Robocop dans les années 1660. Et finalement, en fait, il faut 30 pages pour voir vraiment le chevalier mécanique. Tiens, du sport, il y a Xavier qui te montre la BD. Il faut attendre une bonne trentaine de pages avant que... Et encore, non, c'est au bout de la 37e page qu'on voit vraiment le chevalier mécanique. Alors au début, on voit que c'est un père, en fait, qui a un fils qui est nain, qui est la risée de ses camarades à l'école. Il a la bouche complètement ravagée et tout. Bon, déjà, le fils, il a rien pour lui, il est déjà d'un âge mûr, donc à l'époque on crevait assez facilement, donc il n'y a pas grand chose pour lui. On voit qu'il a commencé sa vie, enfin qu'il va bientôt la finir d'une façon assez mauvaise, et donc il y a un deal qui est passé suite à une sorte d'entourloupe où le père a été un peu démasqué par l'équipe du roi. Et donc il y a un deal qui est créé entre ces différentes personnes pour créer l'arme absolue, qui est le bras armé du roi. Et donc à partir du moment où le chevalier mécanique entre en scène, là on est vraiment dans la baston pur jus, c'est-à-dire que le mec il est invincible, il a le corps, en fait c'est une belle mécanique. Par contre, son point faible, c'est comme Iron Man avec son espèce de truc lumineux, si on lui enlève, eh ben il y a son cœur. En fait, c'était un truc conçu pour empêcher l'éclat d'obus d'entrer dans le cœur. Et lui, c'est pareil, il doit remonter la belle horlogerie qui est son corps toutes les nuits avec une clé où il doit remonter. Donc évidemment, s'il perd la clé, bah il crève. Voilà, donc c'est le beau...
il fait appel à un serrurier.
Mais
c'est l'homme de métier qui parle.
Voilà, un peu d'autopromo dans l'émission.
Je vais m'excuser auprès du CTR de Toulouse, voilà. Et du CSA. C'est vraiment... Alors, on n'a pas cité de nom. Voilà. On n'a pas cité de marque.
Alors, moi, j'ai vraiment été emballé par le scénario. Je trouve que c'est un scénario hyper efficace. J'ai été beaucoup moins emballé par le dessin qui frôle sur certaines planches, sur certaines cases. Je dirais que ça frôle un peu l'amateurisme aussi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire à le feuilleter. Je me suis dit, bon, c'est son premier bouquin.
Ouais.
C'est l'impression que ça laisse, c'est dommage hein, d'ailleurs.
Ben oui, oui, pourtant le scénario est vraiment passionnant, mais d'ailleurs la couverture elle donne pas, je trouve, pas trop envie non plus. Mais c'est vrai qu'il faut se pencher dans l'histoire, et là tu vois qu'il y a un potentiel quoi. Mais après, voilà, c'est un... En plus, tu as des bonus dans la BD qui montrent comment, c'est quoi l'aventure pour créer une BD aujourd'hui, comment tu fais le buzz, comment tu en parles, comment tu défends ton idée, comment tu cherches un dessinateur aussi. Donc c'est le scénariste qui écrit, qui explique comment il a trouvé son dessinateur, comment il a galéré sur le net pour en trouver, etc. Et après, c'est les multiples recherches. D'ailleurs, tu vois que le dessinateur, il se débrouille pas mal en rough, en fait. Au crayonné, c'est plutôt à l'ancrage en fait que ça commence à... où le bas blesse. Mais sinon, l'histoire est vraiment passionnante. La table d'émeraude, tu apprends au cours du scénario du premier tome ce que c'est. Tu vois que l'origine de cette table d'émeraude remonte à l'Égypte ancienne aussi. Et ben voilà, il y a une conspiration, il y a des gars masqués avec des capes et des masques aussi qui sont dans l'ombre, qui sont tapis, ils disent « Ah là là, on va buter le roi, on va faire une grosse conspiration ». Tu attends un peu le pentacle, les conspirations, tu sais, avec les trucs genre les francs-maçons, les trucs comme ça. Et alors, il y a un peu de dose de fantastique, parce que bon, évidemment, à cette époque, bah, c'est un peu comme du steampunk, hein, c'est... Ben voilà, il n'y a pas de surhomme, pas de super-héros. Mais après, ça reste quand même... ça garde le charme des joutes à l'épée, avec voilà, les gardes du roi et tout. Pas dénué d'intérêt. Moi, j'étais complètement passé à côté de Maître Korbach, le premier album qui avait été autofinancé par Sandaway, qui était, pour moi, j'avais pas du tout aimé, mais du tout. Y a eu, ça, c'est le quatrième album hein, qui est sorti de Sandaway, puisqu'après Maître Korbach, il y avait Maudit Mardi et Il Pennello, c'est en italien. Voilà, donc ce Chevalier Mécanique, franchement, si vous aimez vraiment les conspirations de cette époque-là, du 17e, ben, franchement, ça vaut quand même le coup. Voilà, donc c'est chez Sandaway, Chevalier.
Ouais. Alors, moi, ce que j'ai remarqué sur le bouquin, c'est qu'il était un petit peu épais, puisqu'en fait, il y a un petit dossier complémentaire de 8 pages, puisqu'en fait, on explique la genèse, on a des documents supplémentaires et on a la liste des édinotes. Et ça, c'est les gens qui ont fait confiance dans ce bouquin pour investir dedans. Attention, c'est pas du mécénat, puisqu'ils sont actionnaires, hein, c'est-à-dire ils sont producteurs, comme on dirait dans le cinéma américain, c'est-à-dire qu'ils touchent des droits si la BD se vend.
Ce sont les Thomas Langman de l'album.
Ouais. Voilà. Sachant que quand même si le marché de la bande dessinée actuellement est un petit peu saturé de nouveautés et tout ça, bah, c'est la preuve que quand même il y a... Il y a de ce côté-là, il y a des gens qui y croient et qui estiment que c'est extrêmement intéressant.
Voilà, sachant qu'il y a d'autres qui ont mis plus de sous, mais le scénariste et le dessinateur se s'étaient engagés pour donner un peu plus à ces gens-là qui mettaient plus de sous. Ils apparaissent dans l'album. Leur tête apparaissent dans l'album. Et ils mettent précisément à quelle page, etc. Et, alors par contre, Patrick Pinchard, qui est l'éditeur hein, de ce... De Sandaway expliquait dans des interviews qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Les projets qui étaient soumis à Sandaway, c'est parce qu'ils ont été refusés ailleurs. Hein. Voilà. Donc il dit ça n'empêche pas qu'ils ont certaines qualités, mais c'est un peu le rebut des éditeurs, soit par frilosité, soit par choix. D'autres choix, ils les ont refusés. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'avec la crise actuelle, les auteurs de BD trouvent de plus en plus de difficultés pour financer leurs albums, pour qu'on leur fasse confiance. Et donc c'est vrai que cette solution de crowdfunding peut être aussi une solution pour les auteurs qui ne sont encore une notoriété suffisante pour pouvoir convaincre les autres éditeurs classiques. Voilà, donc Sandaway édite ce quatrième album chez eux qui s'appelle Le Chevalier Mécanique. Le tome 1 s'appelle La Table d'Émeraude, dessiné par Mort et scénarisé par Ménil.
Et là, je crois qu'on va vers... je crois qu'on va encore au fil de l'épée.
Et oui, on reste dans l'arme blanche. Alors, c'est quoi le plan? Ah ouais, voilà, Agnès Maupré.
C'est quoi le plan? Récupérer les ferrets de la reine. Ah non, je dois les amener à le... Suite est facile.
Suite et fin.
Ah oui, c'est le deuxième, ça.
Voilà, c'est la fin aussi de l'épopée de... Alors, j'avais failli sortir le mot, mais on peut le dire quand même, parce qu'on est d'une émission rock'n'roll, de la salope de service de l'époque des mousquetaires.
La traînée.
Ah, c'est vraiment la garce avec un grand G, quoi. C'est Milady de Winter, tome 2, par scénarisé et dessiné par Agnès Maupré. Je le prête à mes collègues, voilà.
Voilà, alors pour les jeunes qui comprennent pas ce que Garce ça veut dire, c'est biatch quoi, tu vois, c'est la même chose.
Ah, voilà.
Voilà. C'est une biatch.
Daughter of a bitch. Voilà. Marquée de la fleur de lys pour avoir séduit un prêtre alors qu'elle n'avait que 13 ans, la salope. Milady de Winter est démasquée par D'Artagnan. Depuis cette nuit où le mousquetaire l'a mise à nu, elle n'a de cesse de tenter de l'éliminer afin de préserver son secret. Mais la guerre couve et le roi doit mater une rébellion à La Rochelle. Le cardinal charge donc Milady de faire assassiner son ennemi, le duc de Buckingham. Mais en fait, elle veut un truc en échange, elle veut mettre la main sur D'Artagnan. Fera-t-elle d'une pierre deux coups en terrassant également le Gascon ? D'autant que tous les moyens sont bons, y compris en s'en prenant aux êtres chers. Milady, en parfaite garce qui se respecte, entreprend donc de se rapprocher de la douce Constance. Mais la situation prend une tournure qu'elle n'avait pas prévue. Et oui, l'album débute sur Milady donc, qui obtient du cardinal de s'occuper elle-même de la prisonnière Constance Bonacieux pour atteindre évidemment D'Artagnan indirectement. D'Artagnan qui est présenté dans ce diptyque comme un béné en fait, un gars qui est juste monté à la capitale pour se faire un nom et qu'en fait qui couche avec un peu en bon cœur d'artichaut qui se respecte avec toutes les donzelles qui passent à la portée de son épée. Sans jeu de mots. Hein,
sont vifs, comme on disait à l'époque.
Et voilà. Les mousquetaires, donc, ce sont un peu des crétins, hein, à part Athos qui est présenté non pas comme un homme vertueux, mais comme une raclure aussi, puisque ce qu'il y a de bien dans ces deux tomes-là, c'est que l'auteur ne cache pas le fait que Milady est vraiment la méchante de service, mais elle explique aussi pourquoi elle en est arrivée là. Ça n'excuse en rien, puisque elle ne recule jamais devant un empoisonnement, devant une traîtrise et tout. Alors évidemment, c'est une fuite en avant, hein, puisque
c'est une femme ambitieuse, hein. On aurait dit du mal, un homme, on dirait c'est un homme ambitieux, une femme, c'est... on dit c'est une salope.
Pas forcément.
Faut quand même remettre en place, avec puisqu'on a passé la journée de la femme, etc. Non, faut remettre en place. Elle a de l'ambition, et elle veut se donner les moyens d'aller à cette ambition.
En fait, c'est pas vraiment le propos de l'album. C'est pas vraiment qu'elle est une femme ambitieuse, c'est surtout une femme qui a capté que pour survivre dans ce monde d'hommes, en fait, il faut se battre avec ses propres armes. Et donc ses propres armes à elle, ce sont la séduction, c'est la manipulation des hommes. Alors elle a un sens de la manipulation qui est tout à fait retors et absolument parfait. Mais c'est vrai que c'est une histoire de survie, c'est-à-dire que elle a fait une connerie à 13 ans et elle va le payer pour le reste de sa vie, sa courte vie bien sûr, en allant toujours dans des bassesses encore plus énormes pour se sauver, puisque forcément à force, y a beaucoup d'hommes qui veulent sa peau quand même, hein, qui sont trahis, qui sont bon voilà. Milady de Winter, tu lis le premier tome. Tu commences, bon voilà, c'est du lavis, c'est de l'encre en noir et blanc, un peu plutôt des zones de gris. Tu dis ça casse pas trois pattes à un canard, et puis tu tournes les pages au fur et à mesure, tu dis hey, quand même. Et puis au niveau de l'histoire, tu dis c'est vraiment passionnant parce que ça apporte un nouvel éclairage à une histoire où tu étais habitué à voir de l'adaptation à la Bernard Borderie, à la Peter Yams, à la Paul Anderson. Excusez-moi, ça fait d'avoir mis dans la même phrase Bernard Borderie avec Paul Anderson, je suis désolé. Finalement, tu dis ah, mais oui, d'accord, les trois mousquetaires, c'était pas que ce qu'on connaît. Et après, tu lis le tome 2 et tu dis que franchement, il y a du scénar. Et franchement, l'album, il se lit finalement beaucoup moins vite que tu pensais. Tu te prends à admirer les compositions, les planches, les jeux sur l'encre. Et tu te rends compte que le dessin est très 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 porté par une finesse, une sensibilité, une élégance dans le trait qui est vraiment qui est frappante. Et tu te dis, t'es content d'avoir lu cette série en deux tomes. Agnès Maupré, c'est sa première BD, c'est une auteure qu'il faut suivre pour le reste, parce que je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Alors apparemment, d'après ce que j'ai compris, son prochain projet s'attaque aussi à la bande dessinée en costume, c'est la bande dessinée d'époque, mais j'avais pas trop d'espérance en voyant le tome 1 et en lisant le tome 2, je suis sûr on peut pas dire que c'est une claque avec un grand C, mais c'est vraiment c'est ça fait partie des BD que je suis content d'avoir lu ces deux dernières années, quoi.
Moi franchement, le tome 1, moi, je l'avais trouvé que c'était extrêmement intéressant, l'éclairage, le parti pris qu'elle avait pris sur le personnage, et en plus avec cette illustration qui est proche de Sfar et tout ça. D'ailleurs, oui. Elle avait dit, hein, dans l'interview qu'on avait diffusée en octobre dernier.
Elle a commencé dans son équipe à travailler avec Sfar, oui.
Et franchement, c'est, moi, je trouvais que c'était extrêmement rafraîchissant. C'est, en plus, ça remet en place la culture française, etc. Et qu'on a encore à revisiter justement tous ces classiques de ce côté-là. Et que, à mon sens, c'est une bonne manière peut-être d'initier des gens justement sur cette école moderne de la bande dessinée.
Et puis techniquement, tu penses au début que ça va faire du Sfar, c'est-à-dire c'est vivant, mais bon, on va pas attendre non plus d'une foule de détails. Et tu vois que c'est vivant, et non seulement c'est vivant, mais en plus il y a du détail. Et en plus, elle arrive à retranscrire vraiment les ambiances de l'époque, très feutrées. Et en plus, c'est ce qu'elle nous avait dit dans l'interview, c'est que quand c'est plutôt frivole, elle utilise plus les niveaux de gris, elle fait circuler pas mal de blanc. Et quand l'histoire devient vraiment sombre, ben ce sont les planches elles-mêmes qui elles passent beaucoup plus de temps à soigner les noirs. Et évidemment, avec la fin du tome 1, tu vois que des noirs partout, et tu dis, ouais, c'est, il y a une puissance du trait quand même qui est assez flagrante. Donc voilà, c'est vraiment une BD qui vaut le coup. En plus, c'est seulement deux tomes, alors vous n'allez pas vous ruiner. C'est deux tomes et vous serez vraiment content de l'avoir dans votre bibliothèque. Milady de Winter, tome 1 et 2, par Agnès Maupré chez Ankama.
Et dont l'interview, donc on l'avait rencontré en janvier, l'année dernière à Angoulême. Donc l'interview a été diffusée le samedi 29 octobre dernier dans le supplément week-end.
Allez, on va dans du bourrin maintenant. Gakushu, tome 2. C'est une série en 3 tomes, donc là on est pile au milieu. Par Dan Heap, c'est du comics.
Non, en général, on dit trilogie.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Une série en 3 tomes.
Bah oui, une trilogie, ouais. Bah voilà, une trilogie.
Voilà, histoire complète.
Voilà, une histoire complète en 3 tomes. C'est dans le label Hostiloster d'Ankama. Là, par contre, on n'est pas du tout dans la finesse et tout. On est vraiment dans le charclage à outrance. Il y a du cannibalisme.
Débitage de gros.
Du débitage, de l'amputation, de tout. Du gars qui finit en momie, couvert de bandages. Donc... Après avoir terrassé Wachik, le voleur continue sa quête de vengeance. Aussi, lorsqu'un commando composé de 3 frères cannibales se lance à sa poursuite... Oui, parce que les méchants dans la BD, ils sont tous cannibales, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
En massacrant des innocents, ben, sans
C'est-à-dire
sang...
C'est-à-dire qu'en plus, ils sont cannibales, et leur chef, là, justement, quoi, enfin, dans le premier tome, quoi, il a un certain sens de l'honneur, quoi. C'est-à-dire qu'il mange les gens, mais il les agresse pas, ou il les viole pas, les femmes, tu vois, quoi. Il a un sens du respect, y a pas
voilà,
de problème.
Il les bute et il les mange.
Voilà, il les bute et il les mange.
Ouais, mais bah oui, parce que enfin, sinon, ça, la viande devient un peu écrasée, bleue. Enfin, c'est...
Ouais, ah c'est bah, les bouchers, ils attendrissent bien la viande, non ?
Oui, mais... Enfin, bon.
Alors justement, le sang du voleur, puisqu'on connaît pas son nom, il s'appelle le voleur, avant de couler de plus belle, ne fait qu'un tour, et ce sont des souvenirs douloureux de 15 ans qui refont surface. Alors l'agresseur... Spoil pas trop, mais il est bien connu du voleur et il a d'ailleurs un vieux compte à régler avec lui. Et comme dans toute joute barbare, eh ben, une jolie femme n'est jamais très très loin.
Ah, de la chair fraîche.
Voilà, bon, alors les femmes dans la BD, c'est quand même une BD de barbare. Alors les femmes, bon, c'est pas vraiment les princesses à enlever, pures et innocentes non plus. Hein. Elles manient aussi l'arme blanche pour pouvoir se sauver leur peau. Alors, c'est du bourrin, c'est du sang, de la neige. Qui tombe constamment. Alors, les personnages, les guerriers sont tous avec des grosses fourrures et tout parce qu'il fait super froid et tu sens viscéralement la température à travers la lecture. Je trouve qu'il y a une. Pour moi, c'est une riche idée, mais au départ, je n'étais pas du tout convaincu. Ce sont les allers-retours narratifs avec des systèmes de flashback, de flash-forward propres à Tarantino. Qui étaient les plus connus sont ceux utilisés par Tarantino, mais ça n'a pas été inventé par le gars, évidemment. Et ça, au début, je me sentais perdu en tant que lecteur, mais finalement, il y a pas un cliffhanger, mais un retroussement final dans les dernières planches de ce tome. Tu te dis, ah ouais, ça s'explique. Et tu sens que le narrateur, eh ben, c'est pas n'importe quel narrateur non plus, pas dans n'importe quelle situation et pas n'importe quel interlocuteur. Et tu
parce que dans le premier, t'as l'impression au bout d'un moment qu'il essaie quand même de noyer le poisson.
Oui, et tu sens qu'il te parle à toi, mais il parle pas à toi finalement.
Ouais, 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 d'accord.
Voilà.
Et... pas mal, pas mal.
Et alors, bon, alors je trouvais, bon, c'était ouais, pour donner le poisson, parce qu'il y a des flashbacks qui sont rendus crayonnés. Il te dit, eh ouais, vous pensez que ça se finit comme ça? Ben non, pas du tout et tout. Ouais, alors tu te dis, ouais, c'est tout ce qu'il a trouvé comme intérêt pour relancer sa BD. Et en fait, non, c'est assez justifié c'est, finalement.
Ça participe au rythme, quoi, on va dire. C'est pas mal, c'est bien foutu de cette façon-là. De toute
façon. Alors, ce qu'il y a de bien en plus avec ce système, c'est que, bon, même si c'est une BD de barbares avec beaucoup de planches où ça charque, où il y a des affrontements à l'arme blanche avec des victimes innocentes, bien sûr, eh ben, il y a quand même un fil rouge derrière et tu te surprends finalement en finissant ce tome-là à vouloir relire depuis le début et même relire le tome 1, puisque ça apporte un éclairage à certaines scènes du tome 1. Qui sont expliqués dans le tome 2. Et alors après, il y a une quête de la part du voleur parce qu'il y a sa femme qui est morte, il a été amputé, il ressemble plus à rien humainement. Son fils, il pensait qu'il avait connu un certain sort. Ce certain sort, il ne l'avait pas connu, il en a connu un autre. Donc tu te dis finalement, ah ben ouais, c'est ça la quête en fait. Et c'est une série, même si elle est barbare et tout... le graphisme, tu te dis il est simple et tout, mais en fait pas du tout, il est tranchant comme un rasoir, je trouve. C'est vraiment il cherche l'efficacité à tout prix. Prise une par une certaines planches, tu te dis il n'y a pas de quoi fracasser, mais quand même sur la continuité, franchement tu vois que c'est du graphisme qui tue et il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, c'est de l'efficace, de l'efficace pur jus. Si vous aimez les grands jeux de barbares, du Conan, du truc de viking avec des épées et de la neige qui tombe tout le temps, avec des paysages désolés, avec des pauvres villages qui sont juste bons à être massacrés. Voilà, Gyakushu, tome 2, le titre est en japonais, c'est un hommage au Shambara japonais. Donc, par Dan Heap, scénarisé et dessiné par Dan Heap, dans le label Hostile Oster dans Kama. And now... The news. Ah, nous sommes coupés.
Ouais, je viens d'avoir la confirmation. Donc, nous avons appris que Jean-Henri Gaston Giraud, né le 8 mai 1938 à Nogent, alias Moebius, est décédé cette nuit. Là-dessus, la foi est quand même un petit peu juste. Donc, on va attendre un petit peu d'avoir un petit peu plus d'éléments. En tout cas, donc c'est le créateur, bien évidemment, d'énormément de bandes dessinées. Il a été capable de faire du western, de la SF.
Bah ouais, c'est juste le gars qui a créé Blueberry.
C'est juste le gars qui a donné envie de faire la bande dessinée au créateur d'Akira. C'est l'un des fondateurs quand même de Metal Hurlant et tout ça. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éléments extrêmement précis de ce côté-là. On va essayer d'en avoir un petit peu plus. Je ne sais pas si l'info est réelle ou non, à vrai dire. On verra ça plus tard. On y reviendra la semaine prochaine. On fait un petit break musical en attendant sur Radio FMR 89.1 avec les Silent Poets, Come Raising. En fait, info complètement au conditionnel, puisque pour l'instant, on n'a absolument aucune confirmation. En tout cas, c'est repris par plusieurs personnes, mais j'ai tendance à me méfier. Donc, on verra. On aura peut-être plus de détails d'ici la fin de l'émission, voire sinon, ben, on en parlera la semaine prochaine. Du sport, lui, ma foi, il fait la voix du top 5, mais là, c'est.
Le top 5.
Il fait le top 10. Top 10.
Top 10. Top 10, donc, une bande dessinée de Alan Moore, qu'on ne présente plus.
Bah ouais.
Hein, et lui, pour l'instant, il n'est pas encore décédé. Et de Jane Ha. Alors,
c'est du chinois,
dans,
ça
ouais, pas forcément. Je pense que c'est plutôt un asiatique américain.
D'accord.
Hein, et alors, ça s'écrit Jean, c'est le diminutif d'Eugène. C'est pas Jean, J-I-N.
Ah.
Comme tu l'as marqué. Non, mais il m'écoute pas, il est en train de tweeter, ouais. Quoi. Donc. Alors, c'est sorti chez Vertigo, c'est dans la collection Vertigo Urban Comics. Donc,
c'est le nouveau label.
C'est le nouveau label, donc. Et en fait, c'est une réédition de cette série. C'est une série en deux tomes qui était sortie il y a 10 ans, quoi. En 1999-2000. Donc, et c'est une série qui donc, sort dans cette nouvelle collection qui s'appelle Collection Vertigo Classique, les grandes séries à suivre du label Vertigo. Et c'est quand même une série qui a obtenu en 2001 l'Eisner Award de la meilleure série. Donc, hein, bon, ouais, on peut se dire, bon, d'accord.
C'est,
okay.
C'est du lourd. Hein.
Déjà, on peut se dire, Alan Moore, bon, généralement, t'achètes, tu, c'est bon, quoi, il n'y a pas de problème. Et là, en plus, bon, bah, ok, ça a obtenu un prix. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Top 10, ce n'est que le nom d'un commissariat, d'un precinct, hein, comme on dirait dans les séries policières américaines. Et en fait, il s'agit d'une série policière. Tout simplement. La seule différence, c'est que dans l'esprit tordu d'Alan Moore, les gens, ils sont pas tout à fait normaux. Il y en a qui sont déviants, il y en a qui sont un petit peu super-héros et tout. Alors que là, dans Top 10 qui est donc un commissariat de quartier qui est situé dans une ville qui s'appelle Neopolis, à Neopolis, il n'y a que des super-héros. Il n'y a que le chauffeur de taxi, le clodo, le commissaire de police, le maire, tout le monde a un pouvoir ou plusieurs pouvoirs. Et donc, bon, bah, il faut quand même que les flics sachent se démerder pour pouvoir justement arrêter des suspects, ceux qui sont en dehors de la loi. Bon, des lois qui sont un petit peu adaptées, hein, bien sûr. Mais le problème, quoi, c'est que justement, du fait que bon, rien n'est pratiquement contrôlable, le seul fait d'avoir une altercation dans la rue et tout, ça peut débouler sur une catastrophe naturelle, tu vois, quoi, genre de mecs qui s'engueulent et tout, bon, voilà, je te balance des coups de laser, enfin bon, et puis résultat des courses, c'est un quartier qui est rasé. Alors, l'histoire est relativement simple, on va dire relativement classique. Il s'agit d'une histoire de cadavres légèrement amputés. Enfin, quand je dis légèrement, c'est avec des guillemets, bien sûr. Hein.
Ah oui.
C'est pour rester poli. Hein, et
on donc est, sacrément. Alors.
Ouais, ouais, ouais. la poursuite, donc la recherche des coupables, tout simplement. Le pitch de départ, eh bien, c'est très simple. C'est la jeune fille que tu vois en couverture là, sur la gauche. C'est Robin Slinger et c'est à l'occasion de son premier jour. Donc elle sort de l'école de police et tout. Elle arrive à Neopolis et elle est mutée donc dans ce commissariat, dans ce top 10. Et elle va avoir comme partenaire
le gros là,
qui s'appelle Smax. Qui en fait, lui, comme particularité, il est invulnérable, quoi. C'est-à-dire que bon,
d'accord, carrément.
Voilà, carrément, quoi. Alors que Robin Slinger, elle, comme don, elle a un don un petit peu spécial. C'est pas un don physique, si tu veux, mais tu vois bien qu'elle transporte une petite boîte, là, il y a marqué T. Alors T, ouais, en anglais, ça veut dire toys, les jouets. En fait, elle a, c'est sa boîte à jouets. Et alors, quand elle sort ses jouets, si tu veux, ses jouets, il peut faire absolument n'importe quoi. Alors, dans le cadre d'une enquête et tout, ils vont chercher des indices, des trucs comme ça et tout. Dans le cadre d'une confrontation un peu musclée et tout, quoi, les petits jouets, ils vont tirer des missiles ou des trucs comme ça.
Enfin, cool. Bon.
Voilà.
Ça me rappelle Marvel vs Capcom, le jeu.
Ouais, ouais, non, mais bon, alors. Et tout le monde, si tu veux, quoi. Alors,
Akira, on en parlait tout à l'heure.
Ce qui est assez intéressant, c'est que bon, bah, tu t'intéresses surtout à ce qui se passe dans ce commissariat, dans ce top 10, et donc tu apprends à découvrir l'ensemble des personnages qui composent ce top 10 avec, avec le chef de commissariat qui est un ancien super-héros de la première guerre et tout.
C'est quoi, c'est un one-shot ça?
Non, c'est en deux tomes, hein, pour l'instant, quoi. C'est une mini-série, on va dire.
Et vu la pagination qui est quand même relativement limité, je pense qu'on doit s'attendre à du condensé alors.
C'est du condensé, enfin bon, c'est du 160-170 pages quand même, hein, c'est pas mal, quoi. Alors bon, bah, on retrouve toujours la patte d'Alan Moore et tout, alors son humour un petit peu décalé, ses références avec la période contemporaine, son décalage de la contemporanéité avec ce qui est complètement fantastique, complètement irrationnel des fois. Et là, bon, il arrive toujours à faire très très fort, il n'y a pas de problème. Le mélange des mythes. Alors en plus, ce qui est très intéressant, c'est que bon, là, il faut faire bien gaffe, il faut bien regarder. Alors si tu remarqueras quand même que le dessin de Gene A, c'est pas n'importe quoi, le mec, il arrive à faire des trucs assez sympathiques, hein, quand même. Et alors moi, ce qui m'a fait bien marrer, c'est, si tu veux, l'utilisation qu'il fait des décors, parce que dans certaines pages, je les ai pas notées, quoi, mais t'as carrément des petits clins d'œil appuyés, soit t'as des personnages de comics vachement connu, hein. Dans une toute petite case, à un moment, tu vois la tronche de Wolverine.
D'accord.
Tu vois aussi un personnage qui ressemble vachement à Stan Lee, tu te demandes.
Oui, bah, vraiment, forcément, un caméo oblige. Ouais.
Hein, mais là, bon, le personnage, en plus, il a des dialogues. Et
en
tout
plus,
ça,
c'est
quoi,
marrant parce que c'est du DC, alors Stan Lee, c'est
oui, oui,
marrant,
non, mais justement, c'est ça, ouais, quoi. C'est ça qui est vraiment assez énorme, quoi. Parce que bon, t'as plusieurs références comme ça, mais il faut bien chercher dans les cases. Bon, c'est pas évident non plus. Bon, parce que bon, j'aime assez le dessin de Gene A. J'aime un petit peu moins la colorisation. Enfin, bon, ok, hein, ça, c'est une question de goût, hein, de toute façon, quoi. Mais c'est pas mal, c'est assez sympa, quoi. Alors bon, t'as la partie comique, quoi, qui est vraiment très intéressante, quoi, parce que bon, ça fait appel aux particularités, c'est-à-dire aux différences, quoi, qu'ont les super-héros entre eux, quoi. Par exemple, le sergent Hyperdog, tu vois, c'est un Doberman, quoi. C'est un Doberman.
C'est,
alors, plein d'allusions un petit peu sexuelles, parce que bon, après t'apprends que lui, il est sorti avec une nana et tout, quoi. Mais alors comment ils font, enfin, tu vois, c'est un truc comme ça où tu dis bon, d'accord, les mecs, ça pourrait être un truc bateau, c'est-à-dire ça aurait été imaginé par quelqu'un d'autre, ça aurait été un truc qui serait assez plat avec une histoire policière classique, on va dire, avec un, on va dire un cliffhanger à la fin du premier tome parce qu'il y a un deuxième tome. Mais comme c'est Alan Moore, si tu veux, il y a encore toute une recherche et il y a des petits détails annexes et il y a des petites déviations comme ça. On part dans des trucs qui n'ont rien à voir avec l'enquête.
Oui, oui,
on... Mais ça fait rien, c'est, ça alimente quand même.
Ouais, la spécialité comme... de Moore, c'est de proposer des degrés de lecture d'un nombre calculable.
Voilà, voilà, c'est ça. Avec en plus, bah, comme d'habitude chez Moore, du texte, hein, parce que bon, bah, y en a marre d'aider, il faut également qu'il y ait assez, un petit peu de texte. Et là, dans le texte qui est à la fin, bah, ça te raconte un petit peu l'origine des différents protagonistes de ce commissariat qui s'appelle Top Ten. Bref, Top Ten, c'est le tome 1, Bienvenue à Neopolis, ça vient de sortir, c'est une réédition hein, quand même, je le souligne, d'Alan Moore au scénario, Jin Ha au dessin, et c'est publié donc chez Urban Comics, collection Vertiga. Alors, Urban Comics qui, ça y est, ils sont lancés, il n'y a pas de problème et tout. Je vous avais dit en fin d'année dernière que ça allait bouger dans le monde des comics, dans le monde de l'édition des comics en France. Eh bien, ça y est, c'est officiel, il n'y a pas de problème. Urban Comics qui, eh bien, nous édite en kiosque, là, ce coup-là, là, le top 10, c'est bien entendu en librairie, hein, en kiosque, le premier Batman Showcase. Alors, on était habitué à Panini, hein, avec Batman Universe. Avant Batman Universe, c'était Batman, les histoires de Batman qu'il y avait dans DC Trinity ou dans DC Universe. Ok, ils ont décidé il y a à peu près un an, fin 2010, début 2011, de consacrer un magazine seulement à Batman. Et on se demande si c'est pas parce qu'ils sentaient un petit peu que le vent allait tourner, que les contrats avec DC allait peut-être être retravaillé, renégocié, que donc il fallait qu'ils montrent qu'ils éditent un maximum dans une bonne présentation, histoire de faire bonne impression. Ça n'a pas suffi, la preuve, ils sont passés à l'ennemi.
Surtout que DC ne se disait en interne qu'il y avait un gros problème à avoir d'avoir un éditeur commun pour les deux maisons d'édition, parce que Marvel était largement mieux représenté qu'eux.
Absolument, oui, en plus, hein, de toute façon, hein, sans conteste possible, de toute façon. Alors là, Urban Comics remet les choses à plat, on va dire, mais va continuer, hein, c'est-à-dire que bon, bah, pour ceux qui sont possesseurs des Batman Universe qui vont du numéro 1 au numéro 10, dans 50 ans ce sera des super collecteurs parce qu'il n'y en a eu que 10, tu vois, ça y a pas de problème, et qu'en plus, bon, bah, ça raconte la fin de R.I.P. plus le début de Batman Inc., Batman Inc., qui continue bien entendu dans ce showcase. Alors, à la différence de Panini, donc de l'ensemble des publications de Panini en kiosque, de Marvel ou de DC, Urban a décidé de faire les choses pour que les gens puissent pénétrer dans le magazine, même sans connaître, ne serait-ce qu'un petit pet de l'histoire de Batman, de Spider-Man, enfin là il s'agit de Batman, parce que bien, ils ont décidé de foutre des pages d'introduction et d'explication des différents personnages qui sont les protagonistes de l'épisode. Et là, c'est assez intéressant. Alors déjà, il y a une grosse page d'ouverture où on met un petit peu les choses à plat et on dit « Ok, bon, voilà où on en est actuellement avec Batman. » Et ensuite, et alors ça, bon, bah, y a toujours plusieurs épisodes, bien sûr, hein, dans les éditions en kiosque. Dans ce showcase, il y en a plusieurs, bien sûr. Dans le Batman Inc. 5, tu remarqueras qu'avant le début, eh bien, il y a une page de présentation, mais qui est hyper complète, hein, parce que, bon, déjà, on a le pitch, ce qui s'est passé un petit peu avant. Ensuite, on a l'explication des différents personnages principaux, avec, en plus, historiquement, leur première apparition BD,
ouais,
en version originale, en version française, ce qu'ils foutent, est-ce qu'ils ont été maudits, quel dessinateur, enfin bon, c'est hyper complet, peut-être un petit peu trop complet pour le type qui va se lancer dedans et qui dit « ouais, mais j'ai pas besoin de t'avoir tout ça, j'en ai rien à foutre ouais. », quoi. Et il y a également, parce que bon, c'était assez chiant des fois de chercher les crédits des différents épisodes dans les publications Panini, hein, parce que bon, bah, c'était à même le dessin. Là, bon, bah, c'est dans un encart spécial, donc on arrive vachement mieux à lire, hein, et à savoir qui sont les différents artisans crédités pour chaque épisode. Bref, ils ont fait les choses vraiment bien, peut-être en trop bien, on va dire, par rapport à des nouveaux lecteurs qui voudraient rentrer dans le jeu et qui se disent « Ok, je commence au numéro 1, là c'est le numéro 1, bien sûr ». mais ça va peut-être les rebuter, qui est vraiment un surplus d'informations par rapport à ce qu'ils ont envie de découvrir, par rapport à ces nouvelles aventures de Batman. Bref, après, bon, en ce qui concerne Batman, bien sûr, hein, ça continue. Alors c'est toujours Bruce Wayne, bien sûr, hein, qui est revenu d'entre les morts et qui a avoué publiquement que c'était lui qui finançait Batman depuis des années.
Il a fondé une corporation.
Voilà, et donc il forme carrément une multinationale de Batman. Il va en chercher à Tokyo. El Gocho, c'est celui d'Argentine. Il y en a un petit peu partout. Et là, c'est carrément une légion de Batman. Hein, c'est-à-dire qu'il pense également, bon, je ne veux pas trop en révéler, quoi, il pense également à fabriquer des clones, hein, des trucs biomécaniques. Quoi, tu vois, quoi.
Ah oui, carrément.
Ah ouais, non, mais ça va assez loin. Parce que, en face, il y a quand même une menace qui est assez inquiétante, on va dire. Ça roule toujours. Alors, c'est toujours, bien sûr, Grant Morrison qui est aux manettes. Hein, donc,
Pensais qu'il avait passé la main.
Non, il est en plein dedans et puis ça roule. Et même à la fin, tu as carrément l'organigramme de Batman Inc., tu vois, avec Batman et les Batbots, justement, ces robots dont je te parle. Il y a une branche Gotham, hein, qui est donc la branche Bruce Wayne. Lui, en fait, il est au-dessus de tout. C'est le Batman original, mais quand il était parti, quand il était mort, eh bien, c'est Dick Grayson donc, qui l'avait remplacé avec Damian Wayne, donc le fils un petit peu tordu, on va dire, de Bruce Wayne, qui joue le rôle de Gordon. Et le commissaire Gordon, bien entendu, ainsi qu'Oracle, hein, mais Oracle un petit peu à part. Hein, parce qu'Oracle, c'est elle qui était, dans le temps, la fille du commissaire Gordon. Mais qui... Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a la branche Black Ops avec Red Robin, encore un autre, et les Outsiders. Alors là, justement, c'est des petits Batman, on va dire, tels que Katana, ça c'est le Batman japonais. Donc, et on a les indépendants, avec Wingman, le Masque, Batwoman, Catwoman et Huntress, ainsi que le club des héros, les Batman de toutes les nations. Alors en Europe, t'as le Parcoureur, t'as le Chevalier, en Asie, t'as Black Bat, Batman Japan, en Afrique, t'as Batwing, Speedra, Traxteer, en Amérique, El Gaucho, frère Chiroptère, donc évident, et Corbeau Rouge, lui, c'est un Indien, quoi, avec des trucs de plumes et tout, quoi, et t'as en Océanie également... Dark Ranger, voilà donc l'organigramme de Batman Inc.
Il n'y a pas d'Africains.
Hein ?
Pas d'Africains.
Si, je l'ai dit, hein, les Africains, c'est Batwing, Speedra et Traktir.
D'accord.
Voilà. Donc tout ça dans ce nouveau Batman
en kiosque. En plus de la nouvelle figurine à collectionner pour les gamins.
À l'aise. Quoique, vu le ton,
c'est pas trop pour les gamins. Ouais.
Non, vraiment pas.
Pour les fans de comics.
Là, vraiment pas pour les gamins, tu vois, quoi. Parce que le truc où t'as Batman qui montre juste une main arrachée, quoi, et qui lui dit
c'est vrai.
Le commissaire Gordon qui lui demande c'est quoi ça? Il dit je sais pas quoi, le reste du cadavre a été mangé par les mouettes, quoi.
D'accord.
Tu dis d'accord, ok. Bon voilà, donc Batman Showcase, et donc ce n'est plus chez Panini, donc maintenant c'est chez Urban Comics.
On a Didier Passamonique par téléphone. Didier, bonjour.
Didier,
est-ce que je l'ai encore paumé? C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai.
Didier, je ne sais pas s'il m'entend proprement. Non, je crois qu'on l'a
perdu.
Tu le rappelles.
Ouais, je crois que c'est ce que l'on va faire encore une fois. Je suis désolé. Donc, on a la confirmation en tout cas pour le décès de Moebius. Thomas, non, on n'aura peut-être pas le temps. On va continuer sur la prog musicale. Thank you. Didier, alors il nous entendait tout à l'heure, et là je ne sais pas s'il nous entend ou non.
Ah. Allez, monte le son.
Didier, est-ce que tu nous entends normalement? Si on l'a, c'est qu'on a un petit problème par ailleurs. Pourtant, je l'ai en connecté et tout. Didier? Ok, bon, je crois qu'on a en fait un plantage de la régie, donc je vais rebrancher un dernier truc, on va le faire différemment. Je suis vraiment désolé pour cette situation qui est un petit peu exceptionnelle.
Donc, oui, mais là je vous entends.
Ouais, merci. Excuse-nous Didier pour cette situation. Donc on a appris donc la disparition de Jean Giraud ce matin. Je ne sais pas ouais. si toi tu peux nous la confirmer ou non et si l'info est officielle.
L'info est officielle. Jean-Claude Mézières a confirmé il était entré à l'hôpital il y a 8 jours et il est décédé ce matin.
D'accord. On ne l'a pas vu, il me semble, lors du festival d'Angoulême. Donc je suppose que ça était peut-être en relation.
En fait, ça faisait une bonne année qu'il souffrait, comme on dit, d'une longue maladie. Tous les amis, tous les proches savaient qu'il était d'une santé défaillante ces derniers temps, quoi. Sa dernière grande sortie officielle a été la magnifique expo à la Galerie Cartier à Paris. Et où il était en bonne forme, mais depuis, il multipliait les incidents de santé.
D'accord. C'était quand même un individu qui avait un certain âge. Il a c'est lui qui a sculpté littéralement la bande dessinée moderne. Donc, c'est une disparition assez importante.
Âge, c'est 74 ans, je trouve pas ça très vieux à la date d'aujourd'hui, quoi. C'est quelqu'un qui entretenait sa forme, qui a toujours fait très attention à sa santé. Donc, ça nous a un peu tous surpris, en fait. C'est un auteur fondamental, en fait, absolument central dans la bande dessinée du XXe siècle et du début du XXIe. C'est l'un des plus grands auteurs à avoir réussi à faire accéder la BD dans l'univers adulte réaliste. C'était un maître de la science-fiction. C'était un des premiers grands auteurs de l'avant-garde française qui a influencé tout le monde. Enfin, il n'y a pas un auteur de la nouvelle génération qui se recommande pas de lui. Il est tout à fait central et exceptionnel. Il y a 2 ans, il avait fait une tournée au Japon où il était reçu comme une espèce de rockstar. Aux États-Unis, il a eu plusieurs fois les Eisner Awards. Et il était considéré comme l'un des plus grands auteurs européens de tous les temps. Oui, on vient de perdre un auteur considérable, considérable.
Et c'était... Bonjour Didier. Et c'était aussi un auteur qui fascinait parce qu'il avait aussi il s'était forgé une double identité graphique avec Moebius et Jean Giraud d'une autre part. Et également un auteur qui brassait pas mal de courants culturels au niveau de la BD. Par exemple, c'est lui qui avait précipité la vocation de beaucoup de mangaka au Japon et qui avait aussi fait connaître beaucoup aux États-Unis en dessinant le surfeur d'argent également.
Il a été fondamental pour plein de choses. Donc c'est vrai que c'est le premier à avoir fait entrer dans la BD une ambition graphique d'importance. Enfin, il y en a eu d'autres avant lui, mais je pense par exemple à Winsor McCay, Enfin, il était dans cette tradition-là, c'est-à-dire que la bande dessinée avec quelqu'un comme Oebus devenait de l'art. Et c'est vrai qu'un auteur comme Otomo, qui est un auteur japonais considérable, se revendiquait de lui. Mais il n'y a pas que lui. Là, je reviens d'Istanbul, la plupart des grands auteurs réalistes turcs se revendiquent de lui. Donc c'est une influence absolument profonde et mondiale. Et puis, il a été de toutes les expérimentations. Souvenons-nous que les premières expériences numériques au cinéma, c'était Tron, produit par Disney. Il en était le dessinateur. Lorsqu'il a fallu faire la révolution de la bande dessinée, il était de toutes les...
De toutes
les aventures dans Pilote, Pilote qui est un journal qui a révolutionné la bande dessinée française, la faisant passer dans l'âge adulte, il en faisait partie. Il publiait dans Harakiri, il a créé le journal Métal Hurlant avec Dionnet et Drouillet, qui a vraiment consacré un certain style de bande dessinée et qui a donné vraiment une étoffe et du lustre à la bande dessinée française dans le monde. C'est réellement un de nos plus grands représentants. Et il avait aussi pour lui une espèce de dimension un peu philosophique. C'était notre sage, probablement l'auteur le plus réflexif du métier, le plus intelligent aussi. Il avait à la fois un sens de la... une réflexion et un discours qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Ouais, voilà. Et puis c'était un personnage aussi modeste qu'il était considérable. C'est-à-dire que, encore récemment, quand on a fait une longue interview en trois parties sur Actua BD, où justement il évoque sa mort prochaine, Il disait qu'il était un peu gêné par cet honneur qu'on lui faisait de faire une exposition, qu'il ne voulait pas se retrouver devant les autres auteurs. Il avait un respect pour ses camarades et ses collègues. C'est aussi quelqu'un qui n'a jamais tourné le dos à la bande dessinée grand public. Il a continué jusqu'au bout à faire des blueberries sont à catégoriser dans une bande dessinée, on va dire, commerciale, que certains même qualifieraient de vulgaire. Et en même temps, il était en permanence avec le Major Fatal ou ses productions pour Metal Hurlant, ou Arzak en particulier. Il était en permanence dans une espèce d'avant-garde, dans une réflexion sur le métier, sur la création, qui a apporté à tout le monde, y compris bien au-delà de la bande dessinée.
On te sent assez ému, Didier, je crois qu'on l'est tous, parce que c'est aussi quelqu'un qui a su ne pas rester enfermé dans la bande dessinée franco-belge, puisque très vite il a jeté des ponts avec la bande dessinée américaine et la bande dessinée japonaise. Donc c'est vraiment un des grands de la bande dessinée mondiale manque.
Ouais, si on va sur YouTube, on va voir on va voir Moebius en train de faire des tac au tac où il partage son coup de crayon avec des gens comme Joe Kubert ou Wallace Wood, quoi. C'était l'équivalent de ces grands auteurs américains qui le respectaient profondément. Oui, puis je suis très ému parce que c'était un ami, en fait.
Et
je me souviens, j'avais 15 ans lorsque j'étais chez lui et il y avait une telle intimité entre nous qu'il devait partir faire des courses, il m'a confié sa fille pendant 2 heures. Ouais, c'est un ami, c'était vraiment un ami. J'avais un projet de faire une grande exposition rétrospective à Istanbul avec lui pour l'année prochaine. Je sais pas ce que ça va devenir, mais voilà, c'était. J'ai même eu l'honneur de le publier. La première chose que j'ai publiée dans ce métier, c'était une sérigraphie de Moebius en 72. 72, donc ça ne date pas d'hier, tout
ouais.
Ça.
Ouais. Didier, on est tous émus. Nous, on va rendre hommage de notre côté. On renverra évidemment vers Actua BD qui, sur les articles et donc les interviews dont tu parles, qui ont déjà été publiés, mais aussi donc maintenant tous les témoignages qui maintenant vont être faits. Et je pense que ça va être vraiment une journée d'importance aujourd'hui. Pour cette disparition, mais néanmoins, je pense que aussi il aurait aimé que l'on aille de l'avant. Donc, on verra ce qui va sortir à partir de maintenant. En tout cas, c'est clair que ce qu'il a fait était franchement fondamental pour la bande dessinée. Voilà, merci Didier d'avoir répondu au pied levé quand même à cette information que l'on a depuis moins d'une demi-heure. Je te souhaite quand même malgré tout une bonne journée. Merci.
Bonne journée à tous.
Ça va être un petit peu difficile, je pense, maintenant. Thomas, tu as un autre illustrateur de talent qui nous a quittés.
On va rester dans la nécrologie. Hein.
Ouais, c'est un petit peu difficile, mais je crois que bah voilà, on n'aura pas trop le choix de ce côté-là.
Voilà, donc là, en ce moment, il y a les grands noms, les grands noms de l'image qui disparaissent les uns après les autres, puisqu'il y a une semaine pile, c'était Ralph McQuarrie qui nous quittait. Alors... Luc, je suis ton père. Oui, mais qui était le père de Dark Vador? La saga de George Lucas ne le précise pas. Il est fait allusion à l'Immaculée Conception dans la nouvelle trilogie. Alors, je vous suggère d'oublier l'explication foireuse de cette trilogie, puisqu'il y a Qui-Gon Jinn qui dit il est possible qu'il ait été directement conçu par les médichloriens eux-mêmes. Et non, le vrai père de Vador, c'est pas les médichloriens, c'est Ralph McQuarrie. Ou plutôt, c'était... Le bonhomme vient de s'éteindre à 82 ans, le 3 mars, donc il y a une semaine, atteint par la maladie de Parkinson. C'était le designer de la saga Star Wars. Alors son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais ceux qui ont vu les artbooks de Star Wars, qui ont vu des images préparatoires de Star Wars, le travail artistique, les études graphiques pour les personnages, il y avait toujours un petit nom en dessous qui avait marqué, Sketchbook, Sketch by Ralph McQuarrie, Matte Painting by Ralph McQuarrie, étude de caractère, voilà. Mais Ralph McQuarrie, c'est lui qui a plus ou moins, on peut le dire, fait le design graphique de Star Wars. Donc le mélange entre l'uniforme nazi et le casque de samouraï de Dark Vador, c'est lui. C'est lui aussi qui a participé à élaborer le look de Yoda, qui a fait les décors des planètes, qui a conçu les robots, les droïdes. C'est lui qui a conçu 6PO, c'est lui qui a créé Chewbacca, c'est lui qui a fait tout le design, toutes les images de Star Wars. Alors, dans les artbooks, moi j'en ai apporté deux. Alors, c'est très très radiophonique, désolé amis auditeurs, on mettra les liens, les images. Alors, je montrais à Xavier Dusport en préparant l'émission tout à l'heure. Eh ben voilà, donc Ralph McQuarrie, il a fait des matte paintings. Alors, les matte paintings, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des photos qui servent pour les arrière-plans, pour les scènes. Sauf que dans les petits coins, si vous regardez bien, il y a des traces de pinceau. Et donc, c'est
oui,
pas
oui,
des...
on,
c'est...
A... on et, se dit et, c'est et... des photos, et non.
Et en fait, tu vois que c'est pas des photos, c'est des peintures. Alors, il n'est peut-être pas tout seul, bien sûr, il y a d'autres artistes qui faisaient du matte painting. Alors, c'était du photoréalisme, alors c'était système de cache, hein. C'était des acteurs qui étaient, pour signifier qu'ils étaient dans la cité des nuages, avec un aéroport immense, avec des vaisseaux partout. Donc, eux, ils étaient juste dans une petite scène, et puis avec un système de cache, on les mettait dans la scène beaucoup plus immense, qui avait été peinte par Ralph McQuarrie et ses petits copains. Ralph McQuarrie, il a aussi fait des peintures pour étudier l'ambiance de certaines scènes, les compos, les cadrages qui sont à montrer dans toutes les écoles de cinéma, les écoles de storyboard. Alors là, je parlais des caches, là, je montre à mes amis le Bespin, le système d'aéroport pour, où le Faucon Millennium se pose. Les astéroïdes, c'est lui qu'ils a fait. Les créatures, le système d'Agobah avec les arbres immenses, c'est Ralph McQuarrie. Voilà, donc vous avez tout un système de tout un jeu de peinture, la salle de méditation de Dark Vador. Il a fait des splendides crayonnés aussi, donc des crayons de couleur avec des techniques mixtes pour essayer d'élaborer les ambiances. Donc, bon, je vais passer les artbooks Et mes collègues, voilà.
Ouais, je les ai vus tout à l'heure, c'est...
Donc Macquarie...
T'es assommé devant tant de talents, quoi.
Donc Macquarie, il a... À part pour les droïdes, il a Star Wars est considéré à tort comme une œuvre de science-fiction, puisque, bon, il y a quand même pas mal d'éléments de SF, mais c'est surtout un conte de chevalerie. Et Macquarie, c'est lui qui a décidé que les Jedi, eh ben, c'était en toge, enfin une espèce de costume avec des capuches. C'est plus vraiment de l'heroic fantasy, de la chevalerie que de la SF. Alors bien sûr, il y avait 2001 qui était passé par là avant, en 68, puisque la pré-production de Star Wars commence dès 75, donc à peine 7 ans après. Mais Macquarie, on voit déjà dans ses peintures préparatoires tout ce qui va faire les séquences emblématiques du film, des trois films des années 80. Donc on voit la position de Dark Vador quand il annonce à Luke sa paternité, on a les scènes emblématiques avec un rebelle qui voit partir les vaisseaux pour le raid final sur l'étoile de la mort à la fin de Nouvel Espoir, etc. Donc lui, c'est lui qui a fait aussi le travail de storyboard, hein, quasi carrément. Alors Ralph McQuarrie, il est né en 29. Il a fait la guerre de Corée, après il a fait des études d'art en Californie dans les années 60, et il commence par dessiner sa carrière par dessiner des dents et des équipements pour un cabinet de dentiste. Et ensuite il fait du dessin technique pour Boeing, et également des illustrations pour une émission consacrée au programme Apollo pour la chaîne CBS. C'est là qu'il est repéré par George Lucas en 75, qui lui dit « Bon, je suis séduit par ton boulot, je te demande de produire des illustrations pour certaines scènes de ma future trilogie, ma future saga Star Wars ». Et donc par la suite, il fait le travail, il est surtout connu pour Star Wars, mais pas que, il a aussi travaillé pour Spielberg sur le look des films Rencontre du Troisième Type et de E.T. Il a gagné un Oscar pour son travail sur le film Cocoon de Ron Howard, et il a d'autres films auxquels il a participé, comme Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Star Trek 4 et plus récemment Jurassic Park. George Lucas lui a proposé de travailler sur le look de la nouvelle trilogie, donc la préquelle, avec l'histoire d'Anakin. Il a préféré décliner l'offre, et c'est finalement l'animateur de ILM, Doug Chiang, qui a hérité du poste. Alors Doug Chiang aussi se démerde pas mal, tout le look super rutilant, lumineux, les nouveaux vaisseaux plein de couleurs, les nouveaux droïdes et tout, c'est Doug Chiang qui les a fait, donc voilà, on n'a pas perdu au change non plus. Donc vous pouvez aller taper sur Google ou vous procurer des artbooks de la nouvelle trilogie. Mais c'est vrai que Ralph McQuarrie était un artiste complet qui travaillait aussi à l'ancienne, qui faisait du rough avec des feutres de storyboard. Il a fait des peintures sur verre, des matte painting, il a fait plein de trucs. Donc évidemment, selon l'expression consacrée, Star Wars ne ressemblerait pas à Star Wars s'il n'y avait pas eu Ralph McQuarrie. Voilà, donc Ralph McQuarrie qui a bercé l'imaginaire de tous les fans de Star Wars qui ont vu les artbooks, et donc toujours ce nom qui revenait tout le temps. Voilà, Ralph McQuarrie qui vient de s'éteindre à l'âge de 82 ans, c'était il y a une semaine. Voilà, décidément, samedi, très très gai pour l'instant.
Ah oui.
Heureusement, du sport va nous dérider tout ça.
Ah ouais,
avec
ouais.
Un gros pavé, je vois, derrière ces papiers.
Ouais,
qui...
Non. Bah, avec la mort de Pierre Tornade cette semaine... Et également, ce qu'on a passé sous silence, mais c'est normal, on n'était pas là la semaine dernière, la mort de Gérard Rinaldi, là, quand même, les Charlots, quoi.
Et oui, Thomas a beaucoup pleuré, il n'était pas en forme la semaine dernière.
Je suis fan des dieux du stade.
Et ouais.
Des fous du stade, pardon.
Des fous du stade, ouais, qui a été diffusé d'ailleurs cette semaine par une petite chaîne. Alors, au niveau de la télé, bon, on va faire vite. Il y a quand même une série à voir. C'est une mini-série, c'est anglais et ça a l'air de bien casser la baraque quand même. C'est sur Arte, jeudi prochain à 20h35. Ça s'appelle Whitechapel. Whitechapel, ben, c'est l'endroit.
Le quartier
de Jack l'Éventreur. Sauf que nous sommes à la période contemporaine et que pratiquement 120 ans après les massacres.
C'est extrêmement huppé. C'est un quartier vraiment riche. Hein,
maintenant, oui. Ça n'a plus rien à voir.
Quoique ça a chuté quand même, parce que depuis 2-3 ans, les loyers ont été divisés par 3 à cause de la crise, parce que c'était vraiment investi par les mecs de la City. Quoi.
Ouais, mais voilà. Vu qu'ils étaient multipliés par 10 par rapport aux loyers normaux,
ah oui, non,
ça reste quand même vachement cher.
C'est pas très peuple.
Alors, le pitch, bien, très simple, hein, c'est que 120 ans plus tard, de nouveaux cadavres arrivent, et donc une nouvelle équipe d'inspecteurs, avec les moyens modernes, la science moderne à leur disposition, vont tenter de résoudre cette énigme. Sauf que, Ce que Arte nous diffuse jeudi prochain à 20h35, c'est la saison 2 de Whitechapel. Alors on se dit, bon, on n'y perd pas au sens, parce que ce sont des chaque saison bien comporte 3 épisodes, donc c'est plutôt une mini-série, on va dire, mini-série par saison. Donc première saison avec 3 épisodes, la saison 2, 3 épisodes également. Et bon, on se dit peut-être que on rentrera pas tout à fait dans la peau des personnages et tout, vu qu'ils ont déjà vécu une aventure antérieure et tout, ça va peut-être pas le faire et tout. Eh bien, l'occasion vous est donnée d'une séance de rattrapage, car eh bien, je ne sais pas si c'est un hasard, à mon avis c'est peut-être un hasard, mais peut-être pas. Paris Première vous diffuse la première saison de Whitechapel qu'ils avaient surtitré Le Retour de Jack l'Éventreur. Alors bon, bien une accroche bien pourrache, bien...
aucun rapport.
Hein, et bon, c'est diffusé par Paris Première mercredi, c'est-à-dire un jour avant la diffusion de la saison 2. Donc saison 1 sur Paris Première, c'est mercredi à 20h40, hein, Le Retour de Jack l'Éventreur. Bref, Whitechapel. Et Whitechapel sur Arte, c'est le lendemain soir à partir de 20h35, interprété par Rupert Penry-Jones, qu'on a vu dans MI5, par exemple, pendant 3-4 saisons. Également Phil Davis, Steve Pemberton, Alex Jennings, donc pour Whitechapel. Notre série inédite a démarré, c'est ce soir sur Orange Ciné Novo et ça s'appelle Enlightened. C'est fourni par HBO, donc on se dit, peut-être on pourra jeter un petit coup d'œil. C'est interprété par Laura Dern, qu'on n'avait pas vu dans une série, et qui là joue le rôle d'une nana qui d'un seul coup a une révélation mystique et donc part à la poursuite du bonheur. Enlightened, c'est un petit peu la traduction en anglais, illuminé quoi, tu vois. Donc, outre Laura Dern, Luke Wilson, le frangin d'Owen. Donc, ça peut être rigolo et tout. Alors, c'est un mélo quoi, on va dire. C'est dans cet esprit-là qu'est décrite cette série Enlightened, donc qui sera diffusée à partir de ce soir sur Orange Ciné Novo à 20h40. Des documentaires, par exemple, ce soir sur Arte, à 22h10, après le documentaire de première partie. Alors, je ne sais pas si c'est le documentaire qui a déjà été diffusé par Arte un petit peu plus tôt, au milieu de l'année dernière, mais c'est très intéressant. Ça s'appelle « Des ovnis, des monstres et du sexe ». Le cinéma selon Roger Corman, d'Alex Stapleton en 2011. Alors, si c'est le documentaire qui est déjà passé, il est vraiment très très bien avec... plein d'intervenants qui arrivent et puis qui disent que s'ils ont fait du cinéma, c'est parce qu'il y avait Roger Corman avant et tout, style Carpenter, il y a
James
également
Cameron,
enfin, je sais pas, hein, je me rappelle pas, mais je sais que Carpenter y est dans le documentaire que j'ai vu. Il y a également des maquilleurs, les maquilleurs les plus connus du circuit cinéma d'horreur. Bref, ça vaut le coup, c'est pas mal, c'est vachement bien foutu. C'est sur Arte donc ce soir à partir de 22h10. Sinon, un autre documentaire, c'est lundi sur Paris Première. Celui-là, il est un petit peu multidiffusé, on va dire, mais il est vachement sympa à regarder quand même. Ça s'appelle Brigitte et moi. Et en fait, c'est un docu-fiction qui date de 2007 et qui prend comme image d'archive, on va dire, soit des images intermédiaires de films porno français des années 70 et des images de l'époque. Et en fait, ça raconte à travers le commentaire du narrateur son histoire d'amour impossible avec Brigitte.
Laë,
bien sûr. Et également la description de ce qu'est l'amour dans cette période des années 70. L'amour libre au début et l'amour plus libre du tout avec l'arrivée du sida. Donc c'est assez rigolo et tout. Et c'est vachement bien foutu. Parce que t'as des images d'archives.
C'est de dire rigolo, sida, tout ça.
Non, mais c'est vachement bien foutu parce que t'as des images d'archives qui remettent les images dans le contexte historique, politique, général, culturel de l'époque en France. Et après, t'as ces images de scènes de films porno. Bon, rassurez-vous, on voit rien, quoi, ou pas grand-chose. C'est assez rigolo parce que c'est vachement bien foutu, quoi. C'est bien monté en tout cas. C'est sur Paris Première donc lundi.
C'est bien monté.
À 23h15. Alors, pour la série des films, on va faire vite fait des films avec des ovnis, des monstres et du sexe.
Super.
Pourquoi pas.
Ce soir, ça fera beaucoup plaisir à mon avis à Jean Giraud, tiens.
Alors ce soir,
manque que des cowboys.
Ce soir sur Orange Ciné Choc à 20h40, Journal d'un zombie 2. Et ils se sont mis à deux pour faire ça avec Philippe Brody et Alex Wilton Regan. C'est anglais. Sur Pink TV ce soir à minuit. Wesh cousin 9, bling bling dans ton boule.
Oh ça c'est du titre.
Demain sur Ciné Plus Classique à 20h40, Zardoz de John Boorman en 73 avec Sean Connery et Charlotte Rampling. Et là, il faut vraiment que je vous lise là, l'article. Enfin, c'est le petit truc que fait François Forestier dans
cette affiche fabuleuse.
Le retour des 101 nanars avec justement Sean Connery dans Zardoz en couverture. Ah, ça vaut son pesant de cacao.
Oui, oui.
Alors, je lis, hein, il y a deux pages. Hein, c'est l'avenir est sombre, le temps aussi, l'univers est glauque et Dieu parle anglais. Cauchemar réalisé sous fumette de feuilles de nénuphar et ingestion de cataplasme à la moutarde de Dijon. Zardoz panache allègrement le marxisme et la connerie, pas incompatible. L'esthétique pas de def et le délire gourou assez proche, entre parenthèses. Le goût britannique des couleurs et la musique de Beethoven, j'ai mal au cœur. Puis, en supplément, il y a James Bond en néandertal velu, nanti d'une couche culotte en papier cloqué et de bretelles accordéon peu efficaces. Avec des cuissardes de mousquetaire, on dirait un bébé éboueur tombé du landau. Au commencement, il y avait les exterminateurs. Toutes les deux bobines du film, les exterminateurs recevaient la visite d'un aéronef qui avait l'allure de la tête de Karl Marx, barbe comprise. 007, qui sentait sa barboteuse le démanger, voulait changer d'air. Il tua donc le leader de l'aéronef et atterrit chez les immortels, dirigé par deux goudous en châle tati. Là, soumis assez rudement à une projection de diapositive des vacances de chez la belle-mère de son cousin, il craqua et se mit au service d'une chochotte qui lui dit « Le monstre trouble notre sérénité » et 007 vit que cela était good. Le matin du deuxième jour, James Bond découvrit la conscience collective, la baguette viennoise, le pouce-pouce et les apathiques, tous londoniens. Charlotte Rampling, une éternelle, montre un dessin de pénis flasque. Comment ceci, et de pénis érigé, peut-il devenir cela ? Il y a des remèdes, Charlotte. En fait, Sean Connery était un mutant super intelligent, mais hyper mal fringué, vous voyez la couverture du livre, qui avait lu The Wizard of Oz, d'où le Mozardoz, vous suivez, et qui cherchait dans le tabernacle où se trouvait le cristal de la connaissance dans une bibliothèque dévastée où une voix lui susurra « Tu as tué ton propre dieu ». Et l'agent secret devenu comme cela, momentanément devant Charlotte Rampling, vit que cela était bonnard. Le troisième jour, le réalisateur du film demanda à l'acteur de faire comme s'il avait tout compris, de tuer tous les figurants qui firent « Ah » et « Oh » dans l'unité des contrastes. Et Sean dit « Je ne vois que ma propre perplexité. Regarde mieux en douille. » Il murmura « La tourterelle jeun dans les terres. » Et j'ajoute « Le rutabaga est bien moulé. » Je répète. Finalement, l'éternité fut détruite et Charlotte Rampling, transformée en squelette, tendit la main à Sean Connery, aussi décavé. Ce fut l'amour à mort, le tango des osselets. Vu qu'il s'agissait d'un film de John Boorman, le new genius de la new wave britannique, le film fut instantanément rangé dans le tiroir New Chef-d'œuvre. Michel Simon, le pape du positif, jamais guéri d'un accès de palu jargonnant, vit que Zardoz se prêtait à une lecture philosophique. Peut-on s'isoler du monde réel ? La vie a-t-elle un sens si la mort n'existe plus ? Tout comme à une lecture politique qui rejoint l'allégorie « Je t'avais dit de pas arrêter les petites pilules roses, Michel. » Et nous, on vit que le nanar était trop bab, top bab. Voilà donc la critique de François Forestier à propos de Zardoz. Zardoz qui est donc diffusé sur Ciné Plus Classique demain soir à 20h40. Mais c'est quand même vachement rigolo comme film. Ciné Plus FX demain soir également, c'est L'étrange créature du lagon noir, hein, le grand classique.
L'original, ouais.
Ouais, qu'on peut voir en 3D dans les salles équipées. XXL... Non mais c'est vrai.
De lunettes bleues et rouges.
Ouais, c'est vrai. Bah ouais, bah c'était 1954. Hein, je suis désolé.
Ouais, il y
avait pas
30
vues 3D.
Bah il suffisait d'avoir les lunettes. C'est tout.
Ouais, ouais. Et XXL demain soir vous propose Initiation of Lou Charmel à minuit. Lundi y a rien. Mardi y a les Watchmen sur Syfy à 22h15. Star Trek le film sur FX à 21h. Et Dorsel Airline Flight to Ibiza à 0h sur XXL avec Madison Parker, Mia Vandome, Tara White et Yasmine dans un de ses derniers rôles. Mercredi sur Sci-Fi, soirée spéciale Booze avec Starship Troopers 3.
Ah ben ouais.
Suivi de Starship Troopers 2.
Ah ben ouais.
Et cerise sur le gâteau, le dessert, Highlander Endgame.
Oh là là.
Top Moumout. Sur FX, on vous propose une soirée Clive Barker avec Cimetière de Marie Lambert à 21h avec Dale McKeef, Dennis Crosby. Et le cimetière 2 à 23h05. Sur jeudi, sur Syfy, on a Frankenfish. Alors là, j'ai vu la bande-annonce. Celui-là, il est impeccable et tout. Le monstre, il est vraiment CGI. terrible, quoi. Frankenfish, Terreur dans les Bayous, de Marc Dippé, avec Terry Kittles et China Chow. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent dans les Bayous, mais enfin bon, il faut pas aller dans l'eau. On sait très bien qu'il y a des requins. Il y a même des fois des monstres. Hein. c'est vrai, quoi. Alors, ça, c'est sur Sci-Fi, donc Frankenfish jeudi prochain. Sur Ciné Club, plus jeudi prochain également. Alors, deux films un petit peu olé-olé, on va dire. Érotique à 20h40, La Hyène de Joe D'Amato en 97 et à 22h10, L'Immoral de Claude Mulot, qui date de 80. Et sur Pink TV, Sex Buddies, The Private Life of Alex Orioli et Manuel Rios. Et vendredi, TPS Star vous propose à 20h40 Bienvenue à Zombieland de Robin Fleischer avec Jesse Eisenberg. Yeah! Woody Harrelson, yeah! Et tout ça donc sur TPS Star vendredi prochain à 20h40. Sinon, Ciné Plus Premier vous propose Halloween 2 de Robo Zombie. Donc, ouais. Et puis, il y a Brad Dourif dedans, quoi.
Ah,
et
oui,
sur ouais. XXL, là, c'est un spécial à 23h15. XXL Mag spécial Vegas AVN Awards. AVN, ça veut dire Adult Video News.
Ah, oui, d'accord.
Et à 0h, European Sex Tour 4, suivi d'à 1h30 du European Sex Tour 5. Et t'as vu, même pas 4 minutes de débordement. Alors je voudrais terminer en rendant un grand hommage à Jean Giraud qui donc n'est plus des nôtres depuis ce matin. Et je voulais simplement dire que Jean Giraud pour moi c'est quand même un mec un petit peu spécial vu que Passamonique en parlait avant de pilote et de tout ça. Moi j'ai été élevé à pilote donc j'ai grandi avec ça et donc Giraud qui des fois se faisait même appeler Gir quoi.
Oui mais pour les raisons éditoriales. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine.
Je veux dire bon moi j'ai toujours flashé sur tout ce qu'il a fait quoi donc c'est une très grande perte. Pour moi, et bon, je suis un petit peu touché, un petit peu ému le fait d'en parler par la disparition de ce très très grand de la bande dessinée. Alors, bon, on peut pas quantifier, on n'aime pas dire s'il est meilleur que l'autre et tout, il faut qu'il gagne des prix et tout ça, quoi. C'est un petit peu débile, quoi, cette compétition, un petit peu. Mais bon, la vie est faite comme ça. En tout cas, rest in peace, mon gars, vas-y. Et là-bas, tu peux fumer l'herbe du diable et la petite fumée.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le supplément week-end. Sur Radio FMR. Ciao, bye bye. Merci Giro. À plus.
Délire, tu sais même plus où